écoutez le monde changer. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Bonjour Madame Vargon.
Bonjour Mickaël Darmon.
Dans le roman de Jules Verne, Autour du monde en 80 jours, les deux héros, Phileas Fogg et Passepartout, défient le temps, ce temps qui se laisse à la fois maîtriser et qui nous échappe sans cesse. Emmanuel Macron et Jean Castex, eux, tentent de faire le tour du macronisme en 600 jours. C'est d'ailleurs assez inédit puisque voilà un gouvernement qui annonce et qui admet qu'il n'a plus le temps. Depuis sa nomination le 3 juillet, le chef du gouvernement est sur tous les fronts, de Bobigny à Dijon, en passant par la Guyane, où il est attendu aujourd'hui également pour une visite express. Même le séminaire gouvernemental hier a été mené au pas de charge. Que peut-on se dire en 2h30, sinon qu'il n'y a plus le temps? Avec tous les grands travaux qui attendent ce gouvernement, eh bien pour sa réinvention, Jupiter devient Hercule. Emmanuel Vargon, quand on dit logement, on dit crise du logement. C'est pratiquement une expression maintenant consacrée. En tant que ministre délégué donc à ce sujet, vous êtes rattaché au ministère de l'Environnement, de la transition écologique. Pour vous aussi, la question se pose. Face à l'urgence climatique, y a-t-il encore le temps pour une transition? Vous étiez au cœur du grand débat après les Gilets jaunes. Voilà maintenant dans le grand bain, dans un gouvernement où les haut-parleurs donc doit faire de la politique. Alors pour cette dernière émission du grand rendez-vous de la saison, bien on vous accueille avec plaisir pour vous interroger à mes côtés. Nicolas Barré des Échos et Yuan Usaï de CNews qui vous pose la première question.
Bonjour Emmanuel Vargon.
Bonjour.
Dans une tribune publiée dans le Parisien, 14 médecins, 14 professeurs de renom appellent à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos. Êtes-vous favorable à cette demande?
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit un peu de relâchement sur le port du masque. Et le port du masque est utile, ça fait partie des mesures barrières. Il y a le masque qui est très visible, mais il y a aussi le fait d'essayer de rester à distance au moins d'un mètre, le fait d'éviter les contacts physiques, de ne pas se faire la bise, de ne pas se serrer la main. Il faut commencer par appliquer les recommandations actuelles. Le port du masque est déjà obligatoire dans les transports, dans les restaurants. Il est fortement recommandé, en particulier dans les lieux clos ou quand on ne peut pas être à plus d'un mètre de distance. Et rien que ça, déjà, est nécessaire aujourd'hui.
Mais là, il demande d'aller plus loin.
Après, pour la demande d'aller plus loin, c'est le ministre de la Santé avec le conseil scientifique qui adapte les recommandations en permanence. Vous savez, on a beaucoup adapté les recommandations au fur et à mesure de l'évolution du virus. La question de la deuxième vague n'est pas tranchée, elle n'est pas exclue, bien sûr, il faut rester vigilant. Elle est annoncée, mais personne n'a encore de signe épidémiologique clair pour savoir si... Pour l'instant, le nombre d'hospitalisations, par exemple, est relativement stable. Les dépistages donnent un taux de contamination plutôt bas, alors même qu'on dépiste toujours plus. Donc il faut se préparer à une éventuelle deuxième vague. Il faut commencer par appliquer les recommandations en cours, le port du masque le plus souvent possible. La question de l'obligation, elle viendra au fur et à mesure des analyses.
On a entendu, même ce matin sur l'antenne d'Europe 1, des Français interrogés en disant « mais si c'était obligatoire, je serais peut-être plus rigoureux ». Parce que c'est vrai qu'on est passé du déconfinement au relâchement. Ça vous inquiète pas ?
En tout cas, ce sur quoi il faut vraiment être vigilant, c'est le respect de ces mesures. En fait, les Français ont été extrêmement civiques pendant le confinement. C'était une période difficile, une forme de privation de liberté. Et tout le monde l'a accepté. Maintenant, la vie reprend son cours. Il faut qu'on accepte de continuer à être civique avec le port du masque et le reste des gestes de barrière. Si on fait ça, déjà, je pense que ce sera très bien.
Ces professeurs de renom, encore une fois, qui signent cette tribune dans le Parisien le disent, cette deuxième vague, elle arrive. Le gouvernement, vous travaillez à un plan de relance de l'économie. Est-ce que cette deuxième vague ne risque pas de compromettre ce plan de relance? Est-ce que vous avez ça en tête quand même?
On va reconfiner?
On sait qu'à la rentrée, une crise économique va arriver. On sait que cette crise arrive sur l'emploi, elle va avoir des conséquences sociales.
Et qui sera
sociales.
Du coup peut-être conjuguée à une crise sanitaire.
Elle est déjà là, cette crise.
Elle est déjà là et elle va s'intensifier. On a déjà des suppressions d'emplois et on sait que ça va être difficile, en particulier pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. En parallèle, on suit la situation sanitaire et on pilote au plus près. Sur la crise économique, c'est le travail que nous menons actuellement sur le plan de relance, je pense qu'on y reviendra, et aussi sur l'accompagnement social de cette crise. Sur le sanitaire, Personne ne souhaite un reconfinement général et on est maintenant mieux doté. On est mieux doté en tests, on est mieux doté en capacité de suivi, on est capable d'isoler des clusters. D'ailleurs, ça a été fait très souvent. À chaque fois qu'on a des regroupements de cas, on est capable de traiter la situation sanitaire. On a beaucoup augmenté l'offre hospitalière. Donc les mesures sont prises pour éviter un deuxième confinement.
Bah, vous êtes un petit peu optimiste. Regardez, Jean Castex, aujourd'hui, le chef du gouvernement est annoncé, arrive en Guyane. Les élus dénoncent une situation de dénuement vis-à-vis du matériel. On a l'impression de se retrouver au début de l'épidémie en métropole. En métropole, maintenant, on croule sur les stocks de masques. Est-ce qu'on peut pas... Qu'est-ce que fait l'administration ? On ne peut pas faire un pont aérien et envoyer des masques en Guyane ?
La situation sanitaire, elle est vraiment difficile à deux endroits, à Mayotte et en Guyane. À Mayotte, cette situation est en cours d'amélioration, mais c'est encore extrêmement sensible. Et en Guyane, c'est vrai qu'il y a des signaux très inquiétants. Et c'est bien la raison pour laquelle Jean Castex, avec Olivier Véran, sont en Guyane aujourd'hui.
Mais il apporte des masques ou il va dire attention, on pense à vous ?
Au-delà de ce qu'il apporte aujourd'hui, il y aura des avions après, il y aura des approvisionnements après. C'est important d'y aller. C'est important d'y aller parce que ça permet de rencontrer les citoyens en Guyane, ça permet de rencontrer les médecins, ça permet d'avoir un échange direct. Après, les décisions qui devront être prises pour aider la Guyane seront prises.
Nicolas Barré.
On évoquait à l'instant le plan de relance. Le fil rouge de ce plan de relance, est-ce que c'est la décarbonation de l'économie ou, au fond, est-ce que l'urgence beaucoup plus immédiate, ça ne va pas être plutôt l'emploi des jeunes, puisque des centaines de milliers de jeunes arrivent sur le marché du travail à la rentrée en septembre et risquent de ne pas trouver de travail.
Est-ce que c'est compatible tout ça ?
En fait, on a deux grandes priorités dans le plan de relance. L'emploi et l'investissement. L'emploi, vous avez raison, il faut se battre pour sauver chaque emploi existant. C'est tout le travail qui est en cours pour des plans de chômage partiel de longue durée avec des accords d'entreprise qui permettent à des entreprises, la première à signer récemment, c'est Safran, qui permettent à des entreprises de dire « je garde des salariés même si je pense que je vais avoir une baisse d'activité ». Pendant ce temps-là, ces salariés se forment et donc d'abord je maintiens l'emploi et ensuite je maintiens la compétitivité. L'emploi, c'est aussi l'entrée des jeunes sur le marché du travail et au-delà des jeunes, moi je pense aux intermittents, je pense aux gens qui enchaînent des CDI, des CDD, pardon, des contrats de courte durée, je pense aux intérimaires, je pense aux indépendants qui pour certains vont pouvoir se remettre de la crise et reprendre leur activité, pour d'autres ça va être plus difficile, donc beaucoup de personnes qui vont être en difficulté sur le marché du travail. Et là, des mesures sont en préparation sur l'emploi des jeunes, sur le soutien à l'activité. Elles ne sont pas tranchées, mais on sait, nous savons que nous voulons soutenir l'emploi des jeunes par des aides directes aux entreprises sous une forme qui n'est pas encore totalement définie.
Mais là, on voit bien qu'il y a un besoin massif. Est-ce qu'on peut faire les deux ? C'est-à-dire soutenir l'emploi des jeunes et puis parallèlement, investir dans tout ce qui est vert, décarbonation, etc.
Donc
on peut
vraiment
faire ça ? On a les moyens ?
Je vous disais deux priorités pour le plan de relance. L'emploi d'abord. Et ensuite, l'investissement. L'investissement, c'est le soutien à l'économie. Donc, c'est la capacité donnée à travers des investissements essentiellement publics ou le soutien à l'investissement privé d'avoir de l'activité. Dans mon domaine, c'est évidemment très important. Le bâtiment, ça fait 10% du PIB français, c'est considérable. Les acteurs sont inquiets, la Fédération du bâtiment, les grands industriels. Et donc nous savons que le bâtiment doit être un élément important du plan de relance. Et sur ce bâtiment, c'est à la fois la construction, mais c'est aussi beaucoup la rénovation. Et c'est là qu'on trouve le lien entre cet investissement, qui est un investissement économique, de soutien, et la transition écologique. Parce que quand on rénove massivement les bâtiments publics, par exemple, les hôpitaux, les universités, quand on aide les particuliers à faire des travaux chez eux, on soutient un secteur économique et on avance vers une économie plus verte, on avance vers la lutte contre le changement climatique. Et je peux vous dire aujourd'hui que voilà, nous sommes en train de discuter avec Bercy, avec Bruno Le Maire, les enveloppes. Le président de la République a dit 15 milliards dans le plan d'investissement, dans le plan de relance pour les enjeux écologiques et on sera autour de 4 à 5 milliards
pour
rien
logement.
Que pour le bâtiment et la rénovation.
Donc ça, c'est un effort.
Oui, c'est un chiffre.
Certainement dans le discours de politique générale, en tout cas dans le plan de relance, 4 milliards consacrés
dans le plan de relance. La demande que je porte avec Barbara Pompili et la discussion que nous avons avec Bercy, on sera autour de 4 à 5 milliards rien que pour le bâtiment et la rénovation des bâtiments. Et ce sera très significatif. Et là, il n'y a pas de contradiction. Juste pour finir, il n'y a pas de contradiction.
C'est quoi ces 4 à 5 milliards ?
Je finis juste ma phrase et je vous réponds. Parce que c'était la question d'avant. Il n'y a pas de contradiction entre l'écologie et l'économie. Cet investissement, il est vraiment économique. Hein. C'est du soutien et c'est du soutien aux artisans. Parce que la rénovation, ça ne sont pas que les grandes entreprises de la construction et du bâtiment. Ce sont aussi tous les artisans de proximité. Et c'est de l'écologie. Après la forme, ce sera beaucoup d'investissements sur les bâtiments publics. Je vous parlais des universités, des écoles, des hôpitaux. Et aussi du soutien aux ménages. Et on n'a pas encore complètement trouvé les modalités. Donc c'est pareil. Le travail est en cours.
Alors, il y a le logement, il y a aussi le mal logement.
Oui, une autre question qui concerne directement votre ministère. Depuis avant-hier, la trêve hivernale sur les expulsions de logements est levée. Les associations, elles, demandent que cette trêve soit prolongée jusqu'à la fin de l'année. En réalité, qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ?
En fait, la source de mon engagement dans la chose publique et dans la politique, c'est d'abord les enjeux sociaux et la recherche de plus grande solidarité. C'est pour ça que moi, j'ai travaillé dans l'administration. C'est pour ça que je suis allée faire le revenu de solidarité active avec Martin Hirsch. C'est pour ça que je me suis occupée d'insertion des jeunes. Et évidemment, je suis très sensible à ces sujets d'hébergement, de lutte contre la pauvreté et d'accompagnement. Il n'y a pas de mais. Et d'accompagnement des personnes en difficulté. Du coup, dès lors, l'une de mes premières rencontres, ça a été avec ces associations de lutte contre l'exclusion, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation des acteurs de la solidarité. Je les ai reçus jeudi, la veille de la fin de la trêve hivernale. Et jeudi soir, j'étais au SAMU social pour rencontrer les équipes et pour faire une maraude. Julien de Normandie avait pris une décision forte. Et je pense qu'il faut saluer cette décision qu'évidemment j'appliquerai. C'est la première fois qu'un gouvernement prend une décision aussi forte. À la fin de la trêve hivernale, pas d'expulsion sans qu'on propose une solution au moins d'hébergement aux personnes expulsées. Aucun gouvernement ne s'est encore engagé. Là-dessus, il faut le dire, c'est vraiment une mesure sociale et humaniste. La trêve hivernale, normalement, se termine le 15 mars. Là, elle se termine le 10 juillet. Et donc, c'est ce que nous avons dit. Je l'ai répété aux associations. Je l'ai surtout réindiqué aux préfets. J'ai fait une visioconférence avec tous les préfets de région pour leur dire que cette politique était toujours d'actualité. Ça veut dire très concrètement, quand vous avez une expulsion, les décisions d'expulsion arrivent quand vous avez des locataires qui ne payent pas le loyer. D'abord, il y a des cas dans lesquels vous avez des fraudeurs, vous avez des personnes de mauvaise foi, vous avez des gens qui abusent du système.
Ça, c'est pas la majorité.
Et l'idée n'est pas de protéger les fraudeurs. Donc pour cela, je pense qu'il faut laisser la justice se dérouler. Pour les autres, une fois que la décision d'expulsion est prise, la question est de savoir si on peut recourir à la force publique, c'est-à-dire si concrètement quelqu'un, la force publique, vient vous voir en vous disant vous êtes obligé de sortir de ce logement. La différence cette année, c'est de dire qu'il n'y aura pas de concours de la force publique, donc pas d'expulsion par la force, s'il n'y a pas au moins une solution proposée d'hébergement. L'hébergement, ça ne veut pas dire un vrai logement, parce que dans des cas, c'est difficile à trouver, mais ça veut au moins dire pas de sortie à la rue. Et par ailleurs, pendant la période de confinement, et les associations l'ont vraiment reconnu, et je voudrais saluer le travail fait par Julien de Normandie, on a ouvert 20 000 places d'hébergement supplémentaires. On est à 180 000 places en France aujourd'hui, c'est beaucoup. Et ces 20 000 places, on les maintient là aussi pour qu'il n'y ait pas de sortie d'hébergement sans solution. Donc il y a un effort de solidarité très très important, et tout ça est financé, 100 millions d'euros supplémentaires, je le dis à Nicolas Barré avant qu'il me pose la question de où est l'argent, 100 millions d'euros supplémentaires dans le projet loi de finances rectificative.
Il faut indemniser les propriétaires dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'expulsion.
Oui, il faut indemniser les propriétaires. Il y a un programme budgétaire qui sert à ça, indemniser les propriétaires. Les crédits seront probablement pas suffisants d'ici à la fin de l'année et donc il faudra réabonder ce programme budgétaire. C'est normal d'indemniser les propriétaires dans ce cas.
On se retrouve dans quelques instants effectivement pour continuer à parler de ce slogan « Un toit pour tous ». A tout de suite.
Le grand rendez-vous européen
avec Les Échos et CNews.